Bonsoir. Mon film est moins joyeux que vos musiciens. Et je montre rarement des films dans des salles aussi petites, avec autant de monde. Ça m'arrive de montrer des films dans des salles beaucoup plus grandes, avec moins de monde. Donc, je suis né à Zurich. Quand même, je me présente rapidement, comme ça, c'est fait. Je suis né à Zurich dans une famille italienne, ouvrière. Et j'ai eu la bonne idée, la meilleure idée de ma vie, c'est de partir à Paris quand j'avais 20 ans. Ce qui a tout changé. Je suis allé à Paris pour aller à la Cinémathèque. J'avais appris qu'on peut voir des films tous les jours à la Cinémathèque française. Je me suis marié, ma femme m'a logé et nourri pendant longtemps. Et on a eu deux filles à Paris, dont la première est assise sur ma droite. Elle vit dans votre région. Et donc à Paris, j'ai appris le cinéma, j'ai commencé à lire, beaucoup à lire, donc j'avais déjà commencé à Zurich, mais enfin, ma vie a été déterminée par la lecture et le cinéma. La cinémathèque et la littérature française, j'ai appris le français en lisant Proust et Rimbaud. J'ai lu La Recherche avec un stylo et un dictionnaire. Et depuis, la musique de Proust m'habite. Elle est un petit peu dans mes films aussi. Et toujours à Paris, où je suis tous les mois, je vais dans une librairie qui s'appelle La Une, place Saint-Germain. Et il m'est arrivé de faire des films à travers des livres que j'ai découverts dans cette librairie. Dont ce film-là. Il ne faut rien leur dire parce qu'ils vont me demander des tantièmes, mais j'ai fait trois films grâce à la librairie de La Une. Et un jour, je tombe sur ce texte de Genet qui s'appelait « Un captif amoureux ». Et souvent, j'ai fait des films sur des écrivains à partir d'un livre que j'avais envie tout simplement lire avec un film. Donc, c'est un film de lecture sur les traces de Genet. Je filme des paysages. Et donc, la question que je me pose, c'est comment filmer un texte, comment lire un texte en faisant un film. Voilà en quelques mots ce film qui dure, je crois, 90 minutes. Je vais lire un peu à côté. Je suis en train de lire les lettres de Céline. J'ai toujours aimé les plus grands et souvent français. Donc, bon, j'espère que la projection va bien se passer. À tout à l'heure, on va faire un petit débat. Merci d'être venu. Ça me fait plaisir d'être ici. À tout à l'heure. Merci pour l'invitation. Je me rappelle d'un article dans le journal Libération à Paris, quand le film était sorti dans les salles de cinéma en France. Tindo père jeûnait dans le désert. Tu veux me poser une question?
Je ne vais pas te poser de questions parce que le micro il est à votre disposition. Donc, vous aurez compris que le choix de ce film de Richard et correspond à l'année Genet, c'est-à-dire que Jean Genet, c'est un écrivain qui a des liens avec le Morvan, puisqu'il il a passé une partie de son enfance à Aligny en Morvan. Et donc cette année, c'est je ne voudrais pas me tromper, c'est dans les commémorations, c'est le centenaire de sa naissance. Voilà. Donc voilà, donc c'est, et ça se fait. Donc nous, on avait prévu de faire venir Richard. Mais on n'aurait pas forcément choisi ce film-là, et le fait qu'il y ait eu cette commémoration de cette année Genet, disons, en relation avec le parc du Morvan, on a choisi ce film. Et puis nous, depuis longtemps, on voulait te faire venir parce que les cinéastes actuels qui s'intéressent à Rimbaud, à Genet, et puis à d'autres poètes, disons, sont rares, et il faut les faire venir avant qu'ils ne disparaissent dans la foison de la production commerciale et populiste. Voilà, si je peux dire ça, si je peux me permettre ça.
Non, et non, puis, mais moi, c'est pas là que je disparais.
Non, mais alors, ben voilà, c'est je.
Là, tu parles pas de moi.
Hein. Non. Oui, bien sûr. Et c'est, ben, tu vas pas disparaître.
Si, un jour, mais enfin, pas là dedans. Je resterai fidèle à moi-même jusqu'au bout, ça c'est certain. Voilà, là, je viens de faire un film sur Gauguin, par exemple. Donc voilà, j'ai toujours travaillé sur des hommes en révolte, comme dirait Camus. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, hein, je poursuis mon petit bonhomme de chemin. C'est toujours des Français, un peu d'un certain type, un peu des Français, pas comme les autres, Rimbaud, Genet, Gauguin, des Français en colère, qui n'avaient toujours une relation difficile, ambiguë avec leurs origines. Française, par exemple, Genet, comme vous savez, était orphelin, n'a jamais connu ni sa mère, ni son père, et ce qui est très très beau dans son texte, c'est justement au seuil de la mort, il commence à réfléchir à sa mère. Et donc cette magnifique rencontre avec cette femme, cette mère de Hamza, qui à un moment donné, pendant un court instant, devient sa propre mère, sans qu'il l'avoue réellement, mais enfin. Voilà un peu le travail de biographe que je fais. Je veux dire, je lis un écrivain, et dans son livre, il y a sa vérité peut-être cachée chez Genet. Donc j'ai essayé de comprendre l'écrivain à travers son texte. J'ai beaucoup travaillé sur les écrivains en les lisant tout simplement. La biographie de Genet, elle est dans ce livre, dans ce dernier livre. Et j'ai fait ce film sous le regard du mort, en cherchant à lui être fidèle, à lui être digne, et faire un film avec lequel il aurait pu peut-être être d'accord. Et donc, tout le film a été fait à partir donc, d'une lecture. Je veux dire, je choisis des textes qui toujours parlent aussi un peu de toi-même. Je veux dire, quand tu fais une lecture, quand tu choisis, tu te définis aussi toi-même. Je veux dire, ce que dit Genet dans ce livre, c'est mon propre rêve du langage. Et puis, il parle aussi de notre génération, de notre rêve de la révolution. Même moi, Suisse, Allemand, j'avais un petit peu ce rêve-là. Étant à Paris, donc je ne parle dans ce livre magnifiquement bien de ma génération finalement et de ce rêve toujours inatteignable par définition. Récemment, j'ai lu un historien français, magnifique livre sur la Révolution française, qui dit « La foi en la Révolution est la foi en l'impossible ». Donc voilà, si vous avez des questions.
Voilà, vous avez un micro là, donc c'est... Le principe de l'université des bistrots, c'est on pose les questions dans le micro, même si on a une voix suffisamment, si on vous entend suffisamment, parce que on enregistre et tous les débats, il y a 44 conférences qui sont en ligne sur Internet, et donc les gens peuvent l'écouter comme la radio, ce qui se passe ici, voilà. Donc voilà, si vous voulez poser des questions à Richard. Sur le film, mais il y a aussi bon, il y a la question palestinienne en dessous de ça, et il y a Emmanuel Monnier là, qui habite à Brassy, qui est un éminent spécialiste de la question palestinienne, parce qu'il y va plusieurs fois, par an depuis des années. Il fait venir des enfants palestiniens dans le Morvan. Il y a tout un échange comme ça, donc si vous avez aussi envie de poser des questions à Emmanuel sur les questions palestiniennes, il se fera un plaisir de vous répondre. Voilà, à vous.
Bon, tout est dans le film, je veux dire. Sinon, allez-y, on vous répète. Là, sinon, on passera la soirée à faire circuler le micro.
Non, je voulais juste poser une question concernant Jean Genet. Est-ce qu'il maîtrisait la langue du pays arabe pour avoir, disons, une couverture aussi sensible du problème ?
Moi, je ne sais pas, j'étais pas présent. Peut-être il me rappelle un peu mon propre personnage, la jeune femme. Je l'ai engagée sur le conseil d'un ami cinéaste. Et quand je l'ai engagée, je lui demande « Est-ce que tu parles l'arabe ?» Puisqu'elle est d'origine algérienne, mais bon, née en France. Et elle m'a dit « Oui. » Quand elle était sur place, on s'est rendu compte qu'elle ne parlait pas l'arabe. Donc ça m'a un peu réduit dans ma liberté de travailler avec elle et de lui laisser un espace un peu plus large et de lui donner une certaine autonomie. Certaines féministes suisses et allemandes m'ont reproché que cette femme n'est qu'un bébé femme, qu'elle joue aucun rôle dans mon film. Mais bon, elle est lectrice. Et le fait qu'elle ne parlait pas l'arabe, ça m'a un peu handicapé, vu que je ne pouvais pas la laisser en quelque sorte autonome. Mais en même temps, comme elle est lectrice, un peu métaphorique, à ma place et à votre place, je pense qu'elle aurait détruit le tissu du film. Le récit du film, si elle avait pris trop d'indépendance. Donc, ça, c'est une logique cinématographique qui est la mienne, ma manière de faire du cinéma, qui est recréer la mémoire. Bon, cinéma est une,
une politique de la mémoire. Et donc, la question est comment filmer cette mémoire qui est, par définition, invisible. Et c'est pour cela que j'ai besoin du texte. Chez moi, le texte raconte les images. Et ce que les images ne peuvent pas montrer. Comme disait d'ailleurs Marguerite Duras, on peut montrer des choses avec des images qu'on ne peut pas dire avec des mots. Il y a des choses qu'on peut dire avec des phrases qu'on ne peut pas montrer avec les images. Je travaille un peu là-dessus, entre autres. Et donc, je ne pense pas qu'il parlait vraiment l'arabe. Hein, je pense que ça m'étonne. Mais bon, il avait souvent des traducteurs autour de lui. Même avec ce téléphone à Hamza, il était avec la traductrice, il était avec la Libanaise. Donc, sans doute, c'est à travers elle qu'il a parlé avec lui. J'ai filmé aussi un téléphone entre le vrai Hamza et mon personnage. Et finalement, tout le monde m'a dit de l'enlever, qu'il ne fallait pas le mettre dans le film. Alors, je l'ai enlevé. Donc, le film a été montré en Jordanie dans une version censurée. Je n'ai pas été présent, mais on m'a raconté que mon film était montré à Amman, mais coupé. Et puis, je l'ai aussi montré en Israël, à Tel Aviv, dans un festival. Ce qui, aujourd'hui, ne serait plus possible. Mais il y a, je ne me rappelle pas, il y a 10 ans, peut-être, j'étais à Tel Aviv. Voilà. Jean, sinon, tu peux me poser des questions toi-même. Bon, on ne va pas parler longtemps. Peut-être les gens ont faim. Ils vont nous faire comprendre qu'ils voudraient aller manger.
Oui, mais il était prévu qu'on ait soif de t'entendre. Ah. Non. Bon, tu vas nous désoiffer.
Je vais peut-être poser une question absolument inculte. Mais pourquoi Genet appelle cette période-là la révolution palestinienne? Parce que, bon, moi, j'ai l'impression que l'histoire palestinienne est un long combat. Pourquoi c'est la révolution dans le bouquin de Genet?
Parce que si j'ai bien compris, non, c'est une bonne question. J'espère que j'arrive à répondre. Après moi, lui donner la parole. Je suis sûr qu'il sait beaucoup mieux, plus que moi, là-dessus. Mais ma petite question serait qu'il était donc dans les années 70, là-bas, où la résistance armée se confondait avec un rêve de révolution chez les Palestiniens. C'est-à-dire qu'ils pensaient peut-être reconquérir leur pays perdu et instaurer un régime socialiste. Vous voyez, je veux dire, c'est ça, à mon avis, ce qui était à l'époque le rêve palestinien. C'est-à-dire un double rêve, reconquête et transformation de la société. Et transformer au-delà tout le monde arabe dans un sens révolutionnaire et de gauche, ce qui était, si vous voulez, le rêve de notre époque. C'est pour ça que je dis, le livre de Genet parle de ma génération, de ce qui était d'actualité à l'époque, et qui était ce rêve peut-être impossible de la révolution. Donc il mêle les deux choses, et ce qui était une réalité de cette époque-là. Vous êtes d'accord avec moi? Vous voulez dire quelque chose vous-même? Où est le micro? Où est l'homme au micro? Ça marche plus.
Elle veut parler à la fin. Elle n'a pas faim, elle veut parler à la fin.
Je ne sais pas quand on va là-bas. Maintenant, on ne parle plus du tout de révolution. Quoi. C'est clair que c'est vraiment la période des années 70. Et après, à la fin des années 80, où là, effectivement, il y a l'intifada, voilà, où effectivement, c'est une autre forme de révolution qui s'est prolongée après en...
Oui, madame, n'oubliez pas, c'était 2 ans après 68. Donc le rêve est encore dans l'air.
Il y a évidemment le plan à la fin où on voit les enfants.
Oui.
On peut imaginer l'image métaphorique de l'intifada, justement,
la fin du film. Tout le film est rempli d'images métaphoriques. C'est la logique d'un documentaire de mémoire, où on est à la recherche d'images. C'est ce que j'appelle les images possibles. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut filmer dans un monde où la mémoire est absente. Je veux dire, la mémoire étant de l'ordre de l'imaginaire, et le film doit inventer ces images pour parler de cette mémoire, de cette absence de traces, ou presque absence de traces. Vous voulez m'en... Il y en a un autre. Allez-y. Ah, attendez, t'as pas une dame. D'accord. Allez-y, madame.
Non, moi, je voulais simplement dire que comme j'étais mal placée et que je ne voyais pas les sous-titres, j'ai vu uniquement la voix et les images. Et j'ai malgré tout été très, très émue, tout en sachant pas ce que disaient les gens maintenant, en fait, quand vous les avez interviewés. Mais uniquement, il y avait la puissance du choix de vos images et du texte. J'ai trouvé ça hyper émouvant.
C'est merci. Je vous fais cadeau de la cassette. Monsieur ?
Non, je voulais simplement vous demander s'il a rencontré Arafat, qui était quand même déjà à ce moment-là.
Je crois une fois, si je me rappelle bien, dans un camp, il a dû le croiser. Oui, je crois qu'il en parle une fois.
Il n'y a pas eu d'échange, il n'en parle pas dans son livre ?
Je ne me rappelle pas, je crois pas. Non, pas dans son livre. Mais enfin, je suis assez sûr qu'il l'a rencontré une fois. Oui.
Qui ? Allez.
Il y a encore des gens sans sous-titres là derrière.
Non, moi je veux simplement dire une anecdote parce que d'abord merci pour le film.
Merci.
Vraiment. Et puis bon, pour des raisons théâtrales, on va dire, j'ai suivi vos traces 2 ans après vous. En fait, j'ai suivi les traces de Jean Genet. Mais de manière beaucoup, enfin, je dirais plus explosée. Et ce qui est drôle, c'est qu'il y a des gens qui me parlaient de votre passage. Voilà.
Ah, je savais pas. Donc, que je l'ai fait.
Je voulais vous le dire, et je voulais dire aussi que Jean Genet parlait un peu arabe. Voilà. C'est-à-dire qu'il a passé quand il avait 20 ans, il était à Damas, il était dans l'armée et il avait appris un petit peu l'arabe, notamment dans les quartiers. Et donc quand il avait 20 ans, et donc il s'en souvenait. En 70 et en 82, mais pas beaucoup, peut-être comme Mounia, justement, en effet.
Voilà, d'autres remarques, ce n'est pas forcément des questions, hein. Ça peut être faites comme vous voulez, dites ce que vous voulez, hein. Pas forcément obligé de questionner.
J'ai regardé, finalement, je ne suis pas allé lire Céline, j'ai regardé mon film, dans une mauvaise position, mais enfin, quand on regarde soi-même ses propres films, on ne voit que des défauts, hein. Donc, je suis soulagé que vous avez l'air, disons. Et puis, parfois, je trouvais un peu long. Quand je regarde un film, à moi, avec le public, j'ai toujours peur que les gens s'ennuient. Hein. J'ai dit, merde, c'est trop long, j'aurais dû couper. Ils vont finir par s'ennuyer. Mais bon, il y a ce travail avec le temps. Je veux dire, je divise le documentaire. Je divise le documentaire en 2 branches essentielles, fondamentales. C'est le documentaire journalistique et le documentaire que j'appelle épique. Et je me range parmi le deuxième, c'est-à-dire un documentaire épique qui travaille avec le langage, la mémoire, le temps, la durée, la reconstruction du temps perdu à la manière proustienne, avec la parole, etc. Et donc, voilà, je me situe là-dedans. Et ça implique évidemment une structure de la mémoire. De là aussi, la répétition des phrases. Vous avez probablement, peut-être vous êtes demandé pourquoi elle répète des phrases. Ça a déjà été dit. Peut-être il ne s'est pas rendu compte que... Non, il y a un vrai travail sur la mémoire qui implique la répétition, qui implique le rythme, ce que Céline appelle le rythme musical. C'est-à-dire, pour lui, le langage est toujours d'ordre musical. Rythmé, sensuel, poétique, de par le rythme musical. Donc je suis un peu ce type de choses. Et à mon époque, c'était aussi le structuralisme. Et je suis très structuraliste dans la mesure où je crois qu'un film documentaire, surtout quand on travaille sur la mémoire, est une manière de mettre en place une structure de mémoire, justement. C'est-à-dire, pièce par pièce, on met en place la mémoire elle-même et on rend le spectateur témoin comment le film fabrique sa propre mémoire. Et la répétition fait partie de cette structuration, plus la beauté du langage. Et donc, l'essentiel au départ, c'est le choix des textes. Hein. Les textes, c'est ce que je fais le mieux, hein, c'est ce que je sais faire le mieux, choisir des phrases.
Ah, hein? Bon, monsieur.
Oui, naturellement.
Monsieur
oui.
Richard.
Oui, allez-y, monsieur.
Je voudrais vous poser une question.
Oui.
Quand je vois
des films à la Palestine, ça fait un choc de voir des gens qui meurent comme ça. Et puis, qu'on voit qu'il y a des gens qui sont à peu près tout tristes comme ça, qu'on voit ça, c'est épouvantable, hein, qu'on voit des gens qui se font tuer. Voilà.
Si vous voulez, quand j'étais donc pendant les 68, j'étais pas encore cinéaste, c'était en 70, j'ai commencé en 70. Et j'ai tout de suite compris que je travaillerais, moi, sur la mémoire. Je ne serais pas un militant ou un journaliste, quelqu'un de très engagé. Mon engagement, c'est vraiment la mémoire en tant que telle. Et ça, j'ai compris un jour, beaucoup avant, j'ai fait un film avec un voyage très tôt avec des amis. On voulait aller aux Indes, ce fameux voyage en Orient. Et en route, on n'avait plus d'argent. Et on a dû retourner vers le Liban pour rentrer en Suisse. Et en passant par Bagdad, on s'est arrêté à Bagdad et je suis allé visiter le musée le musée national de l'Irak. Je ne sais pas pourquoi, j'étais fils d'ouvrier, aucune culture, je n'ai jamais fait d'études, je suis un autodidacte absolu. Bon, j'ai commencé à lire vers 12 ans, etc. Mais dans ce musée, j'ai compris ce que c'est la culture. C'est un musée de l'art sumérien, avec de nombreux objets à l'époque chaotiquement, mais un chaos magnifique, exposés. Et c'est là, en voyant ce musée, j'ai compris ce que c'est la culture. C'est-à-dire fabriquer des objets beaux en soi, qui sont en même temps des objets de mémoire. Là, j'ai compris l'importance de la mémoire, et que la culture, c'est, comme disait Malraux, une légation. C'est-à-dire, la culture est faite pour qu'on n'oublie pas. Qu'on n'oublie pas les morts, qu'on n'oublie pas le passé, etc. Donc mon cinéma est un cinéma vraiment de mémoire, mais une mémoire politique. Donc je n'ai jamais été donc, engagé dans le sens primaire ou premier du terme, mais j'ai toujours cru que la mémoire est essentielle. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier les morts, ni les rêves, il faut l'avoir toujours présent. Mais maintenant j'ai arrêté de faire des films politiques parce que je n'ai plus de sujet, il ne me vient plus le rire à l'esprit. Aussi parce que mes films n'intéressent plus. Je veux dire, les films que je fais, ça intéresse si peu de gens que j'ose plus faire des films à ma manière, d'une manière conséquente, sans aucune compromission. D'ailleurs, je ne trouverai plus l'argent non plus. C'est-à-dire, chaque film que je fais aujourd'hui, c'est comme un peu le dernier. On a toujours l'impression, ça y est, après, les fonctionnaires de la télévision ne donneront plus d'argent. Donc les films, mes films sont financés par la télévision suisse. Ça va vous étonner, mais même ce film-là est financé par la télévision suisse, par des fonds de l'État français. J'ai toujours la chance de coproduire avec la France, souvent. Mais ce film n'a pas été financé par aucune télévision française. Je veux dire, je ne me rappelle pas, je crois, une petite subvention de l'État. Donc c'est un film qui n'a pas beaucoup circulé, qui a été vu par peu de gens. Ce qui est souvent le cas avec mes films. J'ai fait des films souvent pour peu de gens. J'ai rarement vu autant de personnes comme ce soir. Et voilà. Mais je fais des films pour la durée aussi. Des films qui doivent durer, hein, longtemps. Parce que la plupart des choses dans la culture qui se font, de plus en plus, sont éphémères, par définition. Moi, je suis contre l'éphémère. C'est pour la culture, pour la durée. Je ne dirais pas pour l'éternité, parce que le cinéma, malheureusement, et purée, on ne sait pas combien de temps la pellicule ou la vidéo va durer. C'est d'ailleurs assez angoissant. Si on pense que tout un siècle culturel de cinéma pourrait disparaître assez rapidement. Car le cinéma est quand même l'art fondamental du XXe siècle et une mémoire extraordinaire. Et si cette mémoire-là disparaîtrait, ce serait extrêmement grave. Enfin bref, voilà. Il y a une dernière question avant, monsieur?
Je ne sais pas si c'est la dernière question ou non. Oui. La société civile palestinienne a lancé depuis quelques années une campagne de boycott contre l'État d'Israël jusqu'à le lever de la colonisation, l'embargo, la siège qui subit Gaza. Et ça fait un an, deux ans en France, en Grande-Bretagne. Là, la campagne-là a trouvé quelques échos. un petit peu aussi parmi les différentes organisations, différentes associations, mais aussi parmi les artistes. Alors, est-ce que vous avez entendu parler de ça?
Non.
Est-ce que vous pensez à ça?
Non.
D'accord. J'ai encore une autre question à Emmanuel.
Voulais, ma vie est ainsi faite, je passe de film en film, de pays en pays. Dès qu'on a terminé un film, je fais un autre. J'ai toujours pensé à l'œuvre. J'ai toujours pensé qu'un artiste est là pour laisser une œuvre. Donc, mon idée, c'est de faire le maximum de films. Chaque pays, dans chaque pays où j'ai travaillé, ça devient une patrie. Je veux dire, j'ai de nombreuses patries, dont la patrie palestinienne. Deuxième question?
Non, c'est bon. Ah, bah.
Moi, je voulais juste vous remercier. Ça a déjà été fait.
Merci.
Mais c'est très émouvant parce que personne ici n'ignore la réputation qui est faite à Jean Genet et qui occulte très souvent, pour ceux qui ne vont pas très en profondeur dans ce qu'il a fait, qui occulte ce côté-là que vous montrez, sa sensibilité. Donc voilà, merci beaucoup.
Merci. Non, j'ai par exemple fait mon premier film d'écrivain français, c'était Rimbaud. Arthur Rimbaud. Et on a parfois un peu l'impression qu'en France, ces personnages-là, qui sont des gens très radicaux et difficiles à comprendre dans la douceur française, je crois qu'il faut presque être suisse pour comprendre la radicalité de ces gens-là. Donc mon film sur Rimbaud, par exemple, est un film pratiquement boycotté en France parce que j'ai détruit l'imagerie enfantine de Rimbaud. Et je l'ai montré tel qu'il était, je raconte sa vie, et c'est un film totalement boycotté. Ceci, vous pouvez le regarder, il y a une cassette qu'on peut acheter chez Arte, là. Chez 4-5 films que j'ai faits, qui sont en circuit, disons, en vente chez Arte, dont Le Rimbaud. J'ai aussi fait un film sur Che Guevara, Le Journal de Bolivie, ça s'appelle. Donc, Che Guevara aussi, c'est un... Moi, je suis suisse, je veux dire, je vénère pas les gens. Chez nous, on vénère pas, c'est pas démocratique. Et donc, je garde ma distance critique aussi par rapport au Che. Mon film sur le Che, c'est une marche dans la mort. C'est un film sur une défaite. Ce qui m'intéresse, c'est aussi la défaite. C'est-à-dire le deuil, le travail de deuil nécessaire. Parce que les rêveurs de l'impossible, forcément, subissent des défaites. Mais mon premier film politique, c'était un film sur la guerre d'Espagne. C'est-à-dire sur des Suisses qui ont combattu dans la guerre d'Espagne. Donc, je m'oriente historiquement à la Commune de Paris, à la République espagnole et à la guérilla du Che. C'est un sommet repère politique, ce sur quoi j'ai fait des films. Et donc, c'est aussi un travail de deuil sur la défaite du rêve, sur la défaite de la révolution, etc. Donc, je suis du côté de ceux qui ont perdu. J'aime pas les gagnants, j'aime les perdants. Encore quelque chose? Je commence à avoir faim.
Sinon, on va. Oui, mieux.
Vas-y, ma fille.
Il me semble que tu racontais que, à un moment donné, on voit les images projetées de la télévision au milieu du camp. Donc, on est d'accord que c'est au moment du tournage du film. Et que tu disais que c'était des images que ces Palestiniens n'avaient jamais vues.
Oui, un monsieur dans une revue de cinéma français qui s'appelle Les Cahiers du cinéma m'a reproché l'obscénité de cette scène. Or, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais avec moi, en allant dans le camp, j'avais une cassette d'une télévision anglaise avec moi. Ce sont des images qui ont été tournées par des caméramans anglais. Donc, j'avais amené ces images avec moi pour retrouver les lieux exacts des morts. Parce que quelqu'un qui travaille sur le lieu réel, le lieu réel étant toujours le lieu de mémoire. Donc, pour moi, c'est très important de filmer au lieu exact où les choses se sont passées. Ça fait partie, pour moi, de l'émotion de la mémoire. Être dans les lieux réels. Et donc, j'ai déposé cette cassette chez les chefs du camp avant de partir en Jordanie. Et en pensant de revenir pour terminer certaines images. Et là, les chefs m'ont dit, nos gens n'ont jamais vu les images de leur mort. Est-ce qu'on peut leur montrer la cassette? Je dis oui, évidemment. Et ils m'ont dit, est-ce que vous voudriez les filmer? Pendant qu'ils regardent ces images, parce que pour les Palestiniens, c'est toujours très important que le monde connaisse leur malheur, sache ce qui leur est arrivé. Donc pour eux, ils ont quand même cette conscience de l'importance des images. Et donc, j'ai filmé ces plans-là dans le camp par rapport à ces images, à leur propre demande.
Moi, je voulais juste dire deux petites choses. Une chose, c'est qu'en fait, ce film, il est toujours d'actualité. Voilà. Et quand on voit ces images, elles renvoient plein d'images quand on va sur place. Quoi. Et que là, on est dans les camps de réfugiés palestiniens. Et voilà, moi, j'y étais il y a quelques semaines. Et les réfugiés palestiniens, ils ont toujours les clés de leur maison et ils espèrent toujours un jour revenir dans leur maison. Quoi. Et voilà, les enfants, les petits-enfants portent toujours ça dans leur cœur. Il ne faut pas l'oublier. Quoi. Voilà. La deuxième chose, c'est juste une annonce pour poursuivre sur Genève, dans le cadre du centenaire. Dans 15 jours, à Brassy, il y a un autre texte de Genève qui sera abordé par une compagnie théâtrale qui s'appelle Idem Collectif. C'est un texte qui s'appelle Les Bonnes. Brassy, c'est Les Caillantes et c'est du théâtre chez l'habitant.
Une de mes convictions est que la mémoire est toujours d'actualité, d'une certaine manière. Je travaille sur une métaphore de l'actualité. Chez moi, l'actualité n'est pas de type journalistique, justement, mais de type métaphorique. C'est-à-dire le souvenir des choses qui rendent la mémoire actuelle, d'une certaine manière. Vous voulez qu'on s'arrête là ? Merci d'avoir été si patient. Je ne me rappelle pas avoir jamais reçu des cadeaux en tant que cinéaste pendant un débat. Heureusement, je suis en voiture. Vous allez rire, mais je suis en train de faire un film sur la musique. Je suis en train de faire un film sur des jeunes au conservatoire de musique de la ville de Prague. Parce que j'ouvre mon territoire. Je suis un cinéaste qui a une vision territoriale de son cinéma. Et je crois qu'il faut occuper un territoire dans le cinéma et apporter sa vision philosophique de ce qu'on est en train de faire. Et je n'ai encore jamais fait un film sur la musique. J'ai souvent utilisé une très très belle musique dans mes films, mais je n'ai jamais fait un film sur la musique en tant que telle. Donc j'ouvre mon territoire, je l'élargis avec la musique. Je vais faire 2-3 films sur la musique, dont un autre sur Vivaldi à Venise. Parce que j'ai envie de faire des films un peu tranquilles. Pour le plaisir et pour gagner encore quelques argent, parce que ma retraite ne serait pas suffisante. Bon, bonne soirée, bonne fin de soirée.
Merci, Richard. Alors,
J'espère qu'il n'y a plus de cadeaux, là, quand même.
Hein. Non, mais le micro, tu veux le garder, le micro, un moment, non, là non, parce que j'étais à côté de toi, et pour t'accompagner, tu peux m'accompagner un petit peu, j'ai encore des choses.